Bonjour à tous. L'été dernier, on a participé à un camp jeunes et familles au centre des jeunes en Bretagne, que certains d'entre vous connaissent déjà, et que l'Église soutient au travers de dons. Et on a pu être très encouragés sur une série de cinq prédications de Jamel Attar, qui est un auteur conférencier. Et mon défi ce matin, en plus de vous tenir éveillés avec cette chaleur, ça va être aussi de condenser, de résumer ces cinq prédications d'une heure chacune en 20-25 minutes. Alors pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, je vous encourage aussi à aller sur le site du Centre des Jeunes, il y a des podcasts et vous pourrez voir ces prédications plus en détail. Patrick. Patrick, c'est un chrétien comme vous et moi. Un chrétien normal. Sauf que lui, quand il se met en colère, il vaut mieux pas être à côté. Alors, il est au courant de son problème, il le remet au Seigneur. Mais il suffit d'un mot, d'une petite remarque, et il explose. Et il blesse ceux qu'il aime. On a aussi Annie. Son problème, elle... Elle est mère de deux enfants, elle croit Dieu de tout son cœur, mais c'est qu'elle a peur de mourir et de laisser ses deux enfants orphelins. Alors le soir, avant d'aller se coucher, elle n'arrive pas à dormir, elle est travaillée, elle ne trouve pas le sommeil, et puis elle prie, Dieu apaise son cœur. Et puis le lendemain matin, elle se lève, et le soir, elle a encore de nouveau ses pensées qui reviennent, elle ne trouve pas le sommeil, et rebelote, et ainsi de suite. Ensuite, on a Amandine. Amandine, elle croit en Dieu de tout son cœur, mais son problème, c'est qu'elle doute. Elle discute avec quelqu'un, et elle peut en arriver à remettre en cause la véracité de la Bible. Elle lit un verset qu'elle ne comprend pas forcément très bien, elle bute dessus, et puis elle commence à avoir des doutes qui l'assaillent. Elle prie, Dieu apaise son cœur, et le lendemain matin, elle lit sa Bible, elle la réouvre, et puis elle bute sur un autre verset qu'elle ne comprend pas, et ainsi de suite. Et puis elle peut arriver à remettre en cause la bonté de Dieu. Et même des fois, ça va plus loin, puisqu'elle remet en cause carrément l'amour rédempteur de Dieu. Alors je ne sais pas si vous vous retrouvez plus dans Patrick, dans Annie ou dans Amandine, ou peut-être que vous avez un autre problème. Finalement, on en a tous des problèmes qui sont assez récurrents. Et puis on s'est battu contre ces géants une fois, deux fois, trois fois. Et puis... on a abdiqué. On s'est dit qu'ils étaient trop forts pour nous et que de toute façon, ça ne changera pas. Et moi, ce matin, je voudrais que vous puissiez repartir au moins avec une idée, juste une seule, c'est que c'est faux. Ça peut changer et ça changera. Pourquoi ? Parce qu'on croit en celui qui a déjà vaincu. Et qu'en Christ, nous aurons la victoire si nous affrontons nos géants. Alors ces géants avec lesquels on se bat tous les jours, ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être lui par exemple. Et puis, on peut avoir l'argent, les mauvaises habitudes, les problèmes relationnels. La vieillesse aussi, ça peut être un géant. L'image de soi, pas arriver à se regarder dans la glace le matin. La jalousie. Le mensonge, l'incrédulité, les jeux d'argent, le poker en ligne, le loto, les angoisses, le cancer aussi, la maladie, ça peut être un géant. Le doute, les jeux vidéo, passer plus de 15 heures devant un écran, la culpabilité, l'apathie, l'envie de rien faire, la stérilité, la pornographie, et celui-ci, ça c'est votre géant. Il n'y a que vous qui le connaissez, vous et Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut être victorieux face à ces géants ? Je vous propose ce matin de redécouvrir un certain nombre de principes spirituels, certaines vérités bibliques, de nous saisir des armes que Dieu met à notre disposition et de prendre des décisions concrètes pour avoir une victoire sur ces géants. Si là, tout de suite, je vous demandais de me donner une histoire dans la Bible où on parle de quelqu'un qui affronte un géant, vous pensez automatiquement à... Merci. Et cette histoire, on la trouve dans 1 Samuel au chapitre 17, versets 4 et 8. Mais juste avant, petit préambule, avant les batailles, la coutume à l'époque, c'était qu'on prenne un champion de chaque armée et il devait se battre dans un combat singulier. Et là, les Philistins, ils ont un joker. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. J'avance un petit peu. Il avait une cuirasse, grosso modo, qui faisait une 60aine de kilos. Un petit peu plus loin, on voit qu'il a un fer de lance qui, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Et il s'avance et il dit « Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. » C'est face à ce géant-là que David doit se battre. Et si on se mettait quelques instants à la place des soldats d'Israël dans cette situation, quelle aurait été notre réaction? On est d'accord qu'on aurait eu peur. On se serait peut-être senti impuissant face à ce géant qui se moque du peuple d'Israël tous les matins. Et on va lire un petit peu plus loin, verset 25. « Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » Quand on lit ça, on est d'accord qu'on n'est pas en train de voir tous les Israélites qui sont en train de dire « Moi, s'il te plaît, non !» Et puis il y a une file d'attente pour être le premier à se battre contre Goliath. Ils sont plutôt en train de se dire « Non, vas-y, c'est bon. » Se cacher les uns derrière les autres. Ils espèrent une aide extérieure. Et peut-être que vous attendez ce matin à ce que je vous dise « Vous pourrez être comme David. » Ben en fait, non. J'aurais plutôt tendance à vous dire « Ne pensez pas que vous pourrez être comme David et combattre des géants si d'abord vous ne pensez pas et vous ne croyez pas de tout votre cœur qu'il y a un autre David qui a combattu pour nous. » Et c'est Jésus qui a enlevé tout pouvoir à ces géants qui nous font peur et qui veulent nous faire croire qu'au bout, il y a la défaite. Dans l'Antiquité, César a battu Vercingétorix. Et il a fait ce qu'on appelle un triomphe. Un triomphe, c'est un défilé militaire. Il était là sur un char magnifique tiré par 4 chevaux. Et puis il passe devant tout le peuple romain qui est en extase devant son empereur qui a vaincu tous ses ennemis. Et puis ses ennemis, dont Vercingétorix, ils les traînent derrière lui, ils sont ligotés et humiliés publiquement. Et Paul utilise cette même image parlante pour nous dire que Jésus, lui aussi, est monté sur un char. Sauf que ce char, c'est un char qui est un petit peu spécial. Ce char, c'est une croix. Et sur cette croix, il a capturé nos ennemis qui ne peuvent plus rien contre nous. Ils sont impuissants. On peut lire dans Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. On a le verset, je vais surtout m'attarder sur la fin du verset. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et Jésus, sur son char, il n'est pas seul. Il invite chacun de nous à venir marcher avec lui dans ce cortège triomphal. Et on peut lire dans Éphésiens 2, versets 4 et 7, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour vaincre, on doit saisir les armes de Dieu. On a une panoplie d'armes à notre disposition. Et toutes ces armes qu'on retrouve chez le Romain ont leur équivalent chez le chrétien. On dit la panoplie. Pourquoi panoplie? En grec, pan, tout. Oplites, les armes du soldat. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il nous manquait une arme? Si moi, je n'avais pas de ceinture, dans quoi est-ce que je pourrais ranger mon épée? Ou comment est-ce que ma cuirasse tiendrait? Si je n'avais pas de casque ou pas de sandales, je ne pourrais pas aller au combat. Il y a certains chrétiens qui disent « Moi, ça va, j'ai le salut, ça me suffit. » Ils pensent que simplement avoir le casque du salut est une chose suffisante. Mais on a besoin de vivre dans la vérité. On a besoin de vivre dans la justice. On a besoin d'être zélé pour l'Évangile. On a besoin d'avoir une confiance inébranlable en notre Dieu. On a aussi besoin d'avoir cette assurance que nous sommes sauvés et que nous appartenons à Jésus-Christ pour toujours. Et évidemment, on a besoin de la parole de Dieu pour lutter en tout temps contre ces géants qui nous font peur. Parfois, on se lève le matin, on regarde par la fenêtre, et puis on voit une super voiture. Vous savez, la Ferrari rouge. On aimerait bien qu'elle soit garée devant chez nous, mais elle appartient à ce gars-là, c'est un vrai païen, il ne croit pas du tout en Dieu. Il est plein d'argent, il est en bonne santé, tout va très très bien. Il rentre très tard le soir, il fait la Java, c'est la belle vie. Et puis on se dit, et moi je me crève. Et au final, qu'est-ce que ça me rapporte? Je me crève pour le service du Seigneur et ça ne me rapporte rien. Et en fait, cette question-là, c'est une question qu'on entendait déjà à l'époque dans Psaume 73. On peut lire, « J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sortent-ils d'arrogance, comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. » Là, le psalmiste, il est en train de dire que ceux qui ne te craignent pas sont en pleine santé, ont plein d'argent, et puis moi je te sers, moi je te crains, et qu'est-ce que j'ai en retour? Que des galères. Et puis on est parti dans des remises en question de la bonté de Dieu à notre égard. Mais si on est revêtu de ses armes, on ne se laissera pas ébranler par ses idées. L'apôtre Paul dit que nous devons nous saisir du bouclier de la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi prend ce que Dieu nous a déjà donné. La foi prend ce que la grâce offre. La foi, c'est le courage, c'est l'audace d'avoir confiance en Dieu. Certainement, beaucoup d'entre vous, vous avez dans votre jardin, ou dans celui de vos voisins, des arbres fruitiers. Chez mes beaux-parents, il y a un cerisier magnifique. Alors, c'est un cerisier qui fait plein de fleurs au printemps, et puis il y a des milliers de cerises. Et qui est-ce qui en profite le plus? Les oiseaux. Alors, paraît-il, il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a les épouvantails. Et puis, il y a ce qu'on appelle les CD. Un CD de musique qu'on pend. Alors, je ne sais pas quel est le style de musique qui marche le mieux avec les oiseaux, mais en tout cas, c'est ce qui est utilisé. Et les oiseaux, ben, ils connaissent déjà le truc. En fait, quand ils voient un épouvantail ou quand ils voient des CD, ils disent justement, mais il y a à manger ici. Venez, il y a à manger. Et la foi, c'est exactement ça. La foi, c'est l'oiseau qui aime se percher sur l'épaule de l'épouvantail. Et quand il y a un géant qui nous fait peur, en réalité, il cherche à nous détourner de cette bénédiction qui nous est promise. En fait, quand je vois un géant, je devrais faire comme l'oiseau et je devrais aller me percher sur l'épaule de l'épouvantail. Je devrais voir plutôt ça comme une invitation à recevoir la bénédiction de Dieu plutôt comme quelque chose qui veut me faire peur et qui veut me détruire. Alors maintenant, à chaque fois que vous verrez un géant, voyez aussi cette bénédiction qu'il y a derrière. Et cette bénédiction, je veux la recevoir par la foi parce qu'elle m'est déjà donnée. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui nous disent qu'en fait, c'est Dieu qui est notre bouclier. Alors oui, la foi, c'est un bouclier. Mais la foi est un bouclier parce que je la place en celui qui est le véritable bouclier. On peut lire quelques versets. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Il y en a encore beaucoup d'autres. Ma foi est un bouclier dans la mesure où je la place en celui qui est le bouclier. Et des fois, on se dit, mais si seulement j'avais plus de foi. Mais Dieu nous dit, si tu avais la foi comme un grain de moutarde, alors tu déplacerais des montagnes. Notre problème, ce n'est pas qu'on devrait avoir plus de foi, mais c'est qu'on devrait nous rappeler qu'on a foi en un grand Dieu. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent peut-être déjà cette phrase qui dit que « Ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, dis à tes problèmes combien ton Dieu est grand. » Il y a une petite fille qui est là en train de jouer tranquillement par terre, et puis d'un coup, il y a un gros chien qui arrive. Elle le regarde, elle fait un petit pas en arrière, un petit pas de recul, et puis le chien commence à grogner, à la regarder. Alors d'un coup, elle s'en va en courant, elle s'enfuit, elle va se sauver derrière les jambes de son père, et puis le chien la suit, et puis là, il s'arrête, il la regarde. Alors elle regarde le chien, elle regarde son père, et puis d'un coup, elle lui fait « Nananère !» Qu'est-ce qui a changé ? Sa position auprès du père. Parce qu'elle sait qu'au pied de son père, elle est en sécurité. Et nous, avec Dieu, c'est la même chose. Quand on est sur le char de triomphe avec Jésus, on n'a plus à avoir peur de ces géants. Je vous propose maintenant une autre histoire bien connue qu'on va trouver dans Nombre 13, à partir du verset 25. Alors le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et puis se dirige vers la terre promise. Ils ont marché depuis plusieurs mois et puis Dieu dit à Moïse qu'il lui demande de choisir 12 explorateurs ou espions pour aller récolter des infos sur ce pays. Alors Moïse choisit 12 explorateurs, un pour chaque tribu. Ils y vont, ils observent et ils reviennent pour un débrief au QG. Et on lit. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. » Les Amalécites occupent la région du Negev. Bon, je passe un petit peu. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Et il lui dit, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. » Quant à la population que nous y avons vue, ce sont des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. Ils insistent bien quand même sur les géants, là. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Et là, les Israélites, ils commencent à se rebeller contre Moïse. Et ils veulent fuir en Égypte. Et puis au début du chapitre 14, toujours de Nombre, on voit que Josué et Caleb interviennent à nouveau. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » On voit dans ce texte qu'il y a un groupe de 12 personnes, qui est lui-même divisé en 10 d'un côté, 2 de l'autre, Josué et Caleb. Et les 10, quand ils font leur rapport, ils font un rapport qui commence assez bien. Ils parlent d'un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et puis il y a un « mais ». Dans nos vies, il y a toujours un « mais ». Et là, ils parlent des géants. Et ils décrivent uniquement ce qu'ils voient et pas ce qu'il y a derrière. Ils décrivent cette réalité physique, mais pas la réalité spirituelle. Ils ont dépouillé la promesse de Dieu de cette vérité spirituelle. Et d'un autre côté, on a le groupe de 2, Josué et Caleb, qui sont aussi allés dans ce pays-là. Ils ont parcouru les mêmes chemins, ils ont vu les mêmes ennemis. Ils ont ramené les mêmes fruits, mais eux ont un constat qui est différent. Ils ont vu cette réalité physique, mais ils ont vu au travers de cette réalité physique. Ils ont vu la réalité spirituelle qu'il y avait derrière. Ils ont vu la promesse de Dieu. Les 10 ont dit « Ce pays est occupé par des géants » et les 2 ont dit « Notre Dieu est un géant ». Ne nous mesurons jamais à nos géants, parce que c'est vrai, on passera pour des sauterelles, mais mesurons nos géants à notre Dieu. David, quand il était sur son champ de bataille, face à Goliath, il n'a pas vu un géant. Il ne s'est pas arrêté à cette réalité physique, mais il a vu cette réalité spirituelle, il a vu un incirconcis, il a vu quelqu'un qui insultait son Dieu. La foi implante dans notre cœur des yeux spirituels. Et ces yeux spirituels nous aident à voir une autre réalité. Je vous propose un exemple qui est encore plus illustré sur cette idée de la réalité spirituelle qu'on peut trouver dans 2 Rois, au chapitre 6, versets 15 et 17. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui n'arrêtait pas de révéler les plans de l'ennemi au roi d'Israël. Et cet ennemi, c'était le roi de Syrie qui voulait sans cesse attaquer le roi d'Israël. Et cet homme qui révélait les plans, c'était Élisée. Au bout d'un moment, on peut le comprendre, le roi de Syrie, il en a complètement ras-le-bol. Et il veut déglinguer notre cher Élisée pour pouvoir enfin avoir la victoire sur le roi d'Israël. Et du coup, il envoie toute son armée aller chercher et arrêter Élisée. Et puis le serviteur d'Élisée, Gehazi, qui le matin, il ouvre ses rideaux, qu'est-ce qu'il regarde par la fenêtre ? Il voit sur la montagne une nuée de soldats. Et on lit. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et moi, ce matin, je voudrais qu'on puisse faire cette même prière, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir Dieu dans sa gloire, dans sa splendeur, pour qu'on puisse voir cette réalité spirituelle, pour qu'on puisse arrêter de s'arrêter simplement à ces géants qui sont là pour nous faire peur, comme cet épouvantail, mais qu'on puisse aller avec foi se percher sur leurs épaules. Et qu'on puisse se rappeler que la grâce nous a déjà été offerte, que la victoire est en Christ. Et qu'on marche avec lui dans ce cortège triomphal et qu'on n'a pas à avoir peur de ces géants qui sont là. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux et qu'il puisse nous aider à avancer dans la confiance. Et je vous propose, pendant que les musiciens se mettent en place pour un chant, vous puissiez vraiment réfléchir à ces géants qui vous font peur. Et qu'on puisse vraiment se rappeler de toutes ces vérités bibliques. Et qu'on ne croit pas à ces mensonges qui nous sont dits par l'ennemi. Alors le chant qu'on va chanter, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ».
Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière. Libérer son peuple.
merci, qu'on garde cette joie, cette force, cette paix. Avec Dieu, nous aurons la victoire. Les annonces. Voilà, nickel, impeccable. Alors, c'est les vacances, profitons des vacances, profitez de vos vacances. Merci au Seigneur pour ceux qui sont rentrés, merci pour ceux qui partiront. On veut penser à ceux qui sont loin et qui participent peut-être autre part à un culte. En tout cas, que Dieu nous bénisse chacun dans le temps qu'il nous a donné. J'aimerais vous rappeler deux choses. Il y a une annonce qui n'est pas là, il y a un conseil d'anciens cette semaine, mercredi à 20h. On peut y penser, c'est important aussi. Deux choses à rappeler. N'oubliez pas, pour les membres, n'oubliez pas le vote que vous devez faire d'ici le 26, 5, 6, je ne sais plus quel jour c'est, mais enfin le dimanche qu'il y a autour, là. Dernier délai, après ce sera trop tard. C'est hyper important. Prenez le temps de réfléchir et de rendre vos bulletins dans la boîte qui est au fond. Et puis une deuxième chose qui est nouvelle sur le tableau, le week-end d'église. Du 8 et du 9 septembre à Champfleury, ça approche, c'est dans un mois, ça va vite, hein, c'est incroyable, dans un mois c'est déjà la rentrée des classes, les enfants. Bon, c'est important pour ceux qui ne se sont pas inscrits sur le site, si vous voulez vous inscrire papier, vous pouvez le faire ici, mais on vous conseille le site pour ceux qui ont un PC, c'est tellement plus simple à relever, voilà, ça simplifie les choses. Donc pensez en tout cas à vous inscrire, c'est important. Moi, je n'ai pas d'autres annonces. Est-ce qu'il y a autre chose à partager? Oui?
Juste dire aux jeunes qu'il y a les revues Ta Jeunesse qui sont derrière sur le petit meuble. Vous pouvez vous servir. Merci. Pour les lectures d'été.
Et puis, il reste plein, dans la petite cuisine, il reste plein de choses qui sont des objets trouvés du club d'été encore. Et puis, il était resté aussi une petite bouteille thermos portion là. Poignée, une tasse thermos qui était quelque part là dans l'église, qui est restée là. Allez la prendre si jamais. Voilà, je vous invite à vous lever et pour un peu conclure ou rappeler ce qu'on nous a dit ce matin, je vous lis quelques passages à la fin de l'épître de Paul aux Philippiens, pas aux Philistins, aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. Dites à Dieu quels sont vos géants, en quelque sorte. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est Paul qui parle, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain.